38. La nuit était tombée, et Trévise était loin de trouver que la situation était redevenue normale. Le mince bandeau de Saint-Épiderme plaqué sur son égratignure avait calmé la douleur physique, mais dans son mental subsistait une écorchure pas aussi facile à cicatriser. Ce n'était pas la simple exposition au danger. À cela, il pouvait réagir aussi bien que n'importe quel autre individu normalement courageux. C'était la direction totalement inattendue d'où était provenu ce danger. C'était le sentiment de ridicule. De quoi aurait-il l'air si on découvrait qu'il avait été mis en déroute par de vulgaires chiens hargneux? Ça aurait été à peine pire s'il avait été mis en fuite par les piaillements de canaris en colère. Des heures durant, il guetta une nouvelle attaque des chiens, prêtant l'oreille à d'éventuels hurlements, aux crissements de griffes sur la coque extérieure. Par comparaison, Pellerat semblait parfaitement calme.
« Je n'ai jamais douté, mon ami, que Joie saurait régler le problème, mais je dois dire que vous avez tiré juste. »
Trévise haussa les épaules. Il n'était pas d'humeur à discuter de la chose. Pellerat tenait sa bibliothèque, l'unique disque compact sur lequel était stockée une vie entière de recherches sur les mythes et légendes. Et, muni de ce trésor, il se retira dans sa chambre où se trouvait son petit lecteur. Il semblait très content de lui. Trévise nota le fait, mais n'en tira aucune conclusion. Il serait temps d'y songer plus tard, une fois qu'il aurait l'esprit moins accaparé par les chiens. Une fois qu'ils furent seuls, Joie hasarda. « Je présume que vous avez été pris par surprise. » « Absolument. » dit Trévise maussade. Qui aurait pu imaginer qu'à la seule vue d'un chien, je devrais trouver mon salut dans la fuite. 20 000 ans sans homme, et ce n'est plus tout à fait le même chien. Ces bêtes doivent constituer à présent le prédateur dominant. Trévise acquiesça. C'est la déduction à laquelle j'étais parvenu, perché là-haut sur ma branche, devenue la proie dominée. Vous aviez certainement raison quant à un éventuel déséquilibre de l'écosystème.
Déséquilibre, sans doute, du point de vue de l'homme, mais si l'on considère l'efficacité dont font preuve les chiens pour mener à bien leurs affaires, je me demande si Pell n'aurait pas raison quand il suggère que l'écologie pourrait se rééquilibrer toute seule en occupant certaines niches par des variantes évolutive du nombre relativement restreint d'espèces initialement importées sur la planète.
Assez curieusement, la même idée m'était venue, nota Trévise.
À condition, évidemment, que le déséquilibre ne soit pas excessif et n'entraîne du même coup un processus de rectification trop long. La planète risquerait de devenir totalement invivable en attendant.
Trévise émit un grognement. Joie le considéra, songeuse.
Comment se fait-il que vous ayez eu l'idée de vous armer?
Pour le bien que ça m'a fait. C'est grâce à votre don de...
Pas entièrement. J'avais besoin de votre arme. À si brève échéance, avec mon seul contact hyperspatial avec le reste de Gaïa, et un tel nombre d'esprits individuels aussi peu familier, je n'aurais rien pu faire sans votre fouet neuronique.
Mon désintégrateur n'a servi à rien. Je l'ai essayé.
Avec un désintégrateur, Trévise, un chien disparaît, c'est tout. Le reste de la meute est peut-être surpris, mais pas terrifié.
Pis que ça, dit Trévise. Ils ont dévoré les restes. Je les encourageais plutôt à rester.
Oui, ça pourrait bien avoir été le cas. Avec le fouet neuronique, c'est différent. Il inflige une douleur, et un chien qui souffre émet des cris bien précis, parfaitement compris des autres, qui, par un réflexe conditionné, faute d'autre chose, commencent à se sentir eux-mêmes terrorisés. Avec des animaux déjà craintifs par disposition naturelle, je n'ai eu qu'à leur infliger l'équivalent d'une pichenette mentale pour qu'ils détalent aussitôt.
Oui, Mais vous vous êtes aperçu qu'en l'occurrence, le fouet était l'arme la plus meurtrière des deux. Pas moi.
Je suis habitué au contact avec les esprits, pas vous.
C'est bien pourquoi j'ai insisté pour que vous utilisiez la puissance minimale en ne visant qu'un seul chien.
Je ne voulais pas une douleur telle qu'elle fît taire l'animal en le tuant. Je ne voulais pas non plus qu'elle fût diluée au point de ne causer qu'un simple concert de gémissements. Je désirais une douleur violente, concentrée en un seul point.
Et vous l'avez eu, Joie, dit Trévise. Ça a marché à la perfection. Je vous dois une considérable gratitude.
Vous me l'accordez à contre-cœur,
annonça Joie, pensive,
parce que vous avez l'impression d'avoir joué un rôle ridicule. Et pourtant, je le répète, je n'aurais rien pu faire sans vos armes. Ce qui m'intrigue, c'est comment vous parvenez à expliquer que vous vous soyez armé malgré mon assurance qu'il n'y avait pas un être humain sur ce monde, un fait que je considère toujours aussi certain. Aviez-vous prévu l'apparition des chiens?
Non, certainement pas. Pas consciemment, du moins. Et je ne me balade pas non plus armé, d'habitude. Il ne m'est même pas venu à l'idée de porter des armes sur Comporellon. Mais je ne puis pas non plus me permettre de plonger dans le piège de croire que cela relève de la magie. C'est impossible. Je soupçonne que dès lors que nous avons commencé à discuter de déséquilibre écologique, j'ai plus ou moins eu la vision inconsciente d'animaux devenus dangereux en l'absence de l'homme. Cela devient assez clair après coup, mais il demeure possible que j'en ai eu le vague pressentiment. Rien de plus.
N'écartez pas aussi négligemment la chose. J'ai participé à la même conversation concernant les déséquilibres écologiques et je n'ai pas eu la même prévoyance. C'est ce don particulier que Gaïa apprécie en vous. Je comprends également qu'il doit vous paraître irritant de posséder ce don caché de prévision dont vous ne pouvez détecter la nature, de savoir agir avec décision, mais sans raison claire.
L'expression usuelle sur Terminus est « agir par intuition ».
Sur Gaïa, on dit « savoir sans réfléchir ». Vous n'aimez pas, n'est-ce pas?
Ça me tracasse, effectivement. Je n'aime pas être guidé par des intuitions. Je suppose que l'intuition a derrière elle une raison. Mais ignorer celle-ci me donne l'impression que je ne maîtrise pas mon propre esprit. Une manière de folie douce.
Et quand vous avez opté en faveur de Gaïa et Galaxia, vous avez agi sur une intuition. Et maintenant, vous en cherchez la raison.
Je l'ai déclaré au moins une douzaine de fois.
Et j'ai refusé de prendre votre déclaration au pied de la lettre. Ce dont je suis désolé. Je ne vous contrerai plus là-dessus.
J'espère toutefois pouvoir continuer à souligner les points en faveur de Gaïa.
Faites,
admit Trévise, si de votre côté vous me reconnaissez la possibilité de ne pas les accepter.
Vous vient-il à l'esprit alors que ce monde interdit est peut-être en train de retourner à une espèce d'état sauvage, pour ne pas dire désertique et finalement inhabitable, par la faute du seul retrait d'une espèce unique capable d'agir comme une intelligence directrice? Si ce monde était Gaïa, ou mieux encore, une partie de Galaxia, cela ne pourrait pas se produire, car l'intelligence directrice existerait toujours au niveau de la galaxie dans son ensemble, et chaque fois qu'une raison quelconque bouleverserait l'écologie, celle-ci tendrait à retrouver son équilibre.
Ce qui veut dire que les chiens ne mangeraient plus?
Bien sûr qu'ils mangeraient, tout comme les hommes. Ils mangeraient toutefois dans un but précis, pour rééquilibrer l'écologie sous une direction délibérée, et non au gré de circonstances aléatoires.
La perte de la liberté individuelle peut être dénuée d'importance pour un chien, mais pas pour un homme. Et puis, supposez que tous les hommes disparaissent, partout, et pas seulement sur une planète ou quelques-unes. Que Galaxia se retrouve sans un seul être humain. Y aurait-il encore une intelligence directrice commune? Joa hésita. On n'a jamais fait l'expérience d'une telle situation, et il ne semble guère plus probable qu'une telle expérience se produise dans le futur. Mais ne vous semble-t-il pas évident que l'esprit humain est qualitativement différent de tout le reste, et que s'il était absent, la somme de toutes les autres consciences ne saurait le remplacer? Ne pourrait-on pas dire dans ce cas que les êtres humains constituent un cas à part et doivent être traités comme tels? Ils ne devraient même pas fusionner entre eux, et encore moins avec des objets non humains. Malgré tout, vous avez opté en faveur de Galaxia. Pour une raison supérieure que je suis incapable de déceler. Peut-être que cette raison supérieure est à la vision de l'effet qu'engendrent les déséquilibres écologiques. N'auriez-vous pu estimer que chaque monde de la galaxie est sur le fil du rasoir, en équilibre instable, et que Galaxia seule serait en mesure de prévenir des désastres tels que celui que l'on constate ici, pour ne rien dire des perpétuels désastres inhérents aux hommes que sont la guerre et la paralysie administrative? Non. Je n'avais pas en tête les déséquilibres écologiques au moment de ma décision. Comment pouvez-vous en être certain? Je ne sais peut-être pas ce que je prévois, mais si quelque chose m'est suggéré après coup, je suis capable de reconnaître a posteriori si cela correspond bien à mon idée initiale, tout comme j'ai l'impression d'avoir prévu la présence de bêtes dangereuses sur ce monde. « Eh bien, » dit Joa sans se démonter, « nous pourrions être morts à cause de ces bêtes dangereuses si ne s'étaient pas combinés nos pouvoirs, votre don de prévision et mon mentalisme. Alors, allez, soyons amis. » Trévise hocha la tête. « Si vous voulez. » Il y avait dans son ton une froideur qui fit hausser les sourcils à la jeune fille. Mais ce fut le moment que choisit Pellorat pour faire irruption, hochant la tête comme s'il voulait la faire choir de ses épaules. « Je crois, leur dit-il, que nous l'avons. »